avait pris l'initiative, je le disais en introduction, de créer un site qui recueille des témoignages sexistes, qui s'appelle Paye ta fac. Et je vous invite à le taper dans n'importe quel moteur de recherche et à lire ne serait-ce que les premiers témoignages. Et ça rebondit étonnamment avec la fin de l'intervention de Mathilde sur des propos qu'on croyait vraiment d'un âge oublié, quand bien même on sait qu'ils existent encore. Peut-être que vous pourriez nous en dire un mot de ces propos et de ce qui vous a motivé à créer ce site, et puis plus largement ce que vous avez vu, vous, au cours de votre carrière.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais commencer par raconter un tout petit peu Paye ta fac, et puis je reviendrai sur certains témoignages ensuite, dans le fil d'une courte présentation que je vais vous faire. Paye ta fac, il faut préciser que c'est un groupe d'étudiants et d'étudiantes que j'avais en charge, qui ont pris cette initiative et qui ont fait ce Tumblr, c'est-à-dire un site de microblogging sur lequel n'importe qui, toutes les personnes, hommes ou femmes, enseignants ou étudiants, peuvent poster les témoignages de ce qu'on appelle le sexisme ordinaire. D'accord ? Donc, je vous donnerai quelques exemples au fur et à mesure. Si on a créé ce Tumblr-là, c'est déjà dans un programme qui était un petit peu plus vaste, où les étudiants sont aussi partis faire de la... et les étudiantes, évidemment, sont partis faire de la sensibilisation auprès des acteurs de l'université, des associations universitaires, mais aussi des bars, par exemple, qui bordent les universités et qui nous font la joie de coller des affiches sur les soirées étudiantes avec une infirmière avec le string qui dépasse, ou la soirée spéciale vacances de Noël des étudiants avec une femme de dos dont on voit uniquement le string aussi, donc qui n'a d'étudiant en fait que le nom posté sur l'affiche. Donc ces étudiantes et ces étudiants que j'ai eu le bonheur d'encadrer se sont vraiment confrontés à cette réalité-là, et c'est moi le contenu pédagogique que je voulais leur donner. Donc voilà, je n'étais pas toute seule et je ne suis toujours pas toute seule derrière ce Tumblr. Alors je voudrais commencer par une petite anecdote qui est aussi tout à fait en lien avec le monde de l'université. J'ai participé à un colloque qui comparait un petit peu les mondes universitaires allemands et français. Donc on avait des gens de ces deux pays. Et on a vu qu'un des grands points communs de ces deux pays-là, c'était les difficultés à obtenir un poste permanent, donc un poste de titulaire pour lequel vous êtes en CDI en fait. Et il y avait trois grands freins pour obtenir un poste. Le premier de ces freins, c'est les sciences humaines et sociales. On revient, c'est le fait de travailler dans les sciences humaines et sociales, donc il est plus difficile d'être titularisé quand on est en histoire, par exemple, ou en communication comme moi, que quand on est en physique ou en biologie. Donc on en vient aussi à un classement hein, des sciences sur lequel je reviendrai. Deuxième difficulté, deuxième frein, avoir un enfant pendant sa thèse. Donc ça, oui, je l'ai fait aussi, c'est pas une super bonne idée, hein, tout de suite. Mais c'est un frein, pourquoi ? Parce que ça prend du temps hein, d'avoir un enfant, je pense que tout le monde le sait ici, en tout cas ceux qui en ont. Donc on a moins de temps pour publier, et les publications sont évidemment très importantes à l'université. Et troisième frein, donc les deux premiers m'étaient quand même plutôt clairs, le troisième frein c'est d'être une femme. Et je me suis dit, bon, les deux premiers je les comprends, le troisième j'ai un petit peu plus de mal à le comprendre. Surtout que quand on est en SHS par exemple, il y a plus de femmes que d'hommes. Encore une fois, on est sur une catégorisation genrée. En creusant un petit peu mes recherches, et c'est ça qui m'a poussée aussi à créer ce Tumblr-là, on se rend compte que même dans les domaines qui sont censés être des domaines féminins, prenez par exemple le monde de la crèche, le monde de la toute petite enfance, si vous rentrez dans une crèche, vous avez 95% de chances de confier votre enfant à une femme. C'est-à-dire la personne qui va vous recevoir et qui va s'occuper de votre enfant, 95% de chances pour que ce soit une femme. Et vous avez aussi 95% de chances de trouver à la tête de cette crèche un homme. Alors que les hommes sont en grande minorité dans ces milieux-là. Voilà, donc tout cela crée un système qui marche aussi à l'université. C'est un petit peu pour vous faire comprendre ce sur quoi je travaille et les thématiques que je vais pouvoir, moi, porter aujourd'hui, c'est-à-dire les freins qui sont internes et externes, qui jalonnent un petit peu les parcours professionnels des femmes. Quand je dis des femmes, certaines se sentiront concernées, d'autres non, et grand bien leur fasse. Mais on parle ici de tendances un petit peu générales. Alors, pour les freins externes, il est très simple de comprendre que quand on est nouveau dans un milieu, on a souvent des difficultés parce qu'on ne connaît pas ce qu'on appelle les codes sociaux de ce milieu. Quelqu'un qui n'a jamais foutu les pieds dans un musée arrive pour la première fois dans un musée, ne sait pas forcément à quoi sert le cordon rouge, ne sait pas forcément comment ça marche, comment on se comporte face aux œuvres, etc. Et bien dans le monde du travail, c'est pareil. Comme on l'a souligné tout à l'heure, les femmes ont exercé des travaux non salariés pendant très longtemps, et les femmes sont arrivées en gros sur le marché du travail plutôt à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc au niveau apprentissage des codes, on est un petit peu en retard si vous voulez. C'est juste une histoire de mémoire de groupe, on a un petit peu plus de mal. Nous on vient du coin du feu, comme ça a été souligné. Donc on a plus de mal à s'habituer aux codes, ce qui fait qu'on arrive dans certains milieux avec plus de difficultés comportementales. Ça, c'est un frein externe. Vous êtes, en tant que femme, moins habituée à un milieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles d'avocats qui font avocat, filles de médecins qui font médecin dans les métiers très stéréotypés masculins. Il y a beaucoup de filles d'eux aussi, et on les comprend. Deuxième type de frein externe, on n'est pas dans une liste exhaustive ici, c'est les stéréotypes. Alors les stéréotypes, tout le monde en a. C'est normal d'avoir un stéréotype, sinon on ne pourrait pas appréhender le monde autour de nous. Le monde est beaucoup trop compliqué. Donc il faut qu'on fasse des petites boîtes dans lesquelles on range les gens, les choses, notre environnement. Donc tout le monde a des stéréotypes, y compris sur les femmes et sur les hommes. Par contre, ce qu'on met dans cette fameuse petite boîte, ça dépend de votre culture, ça dépend de votre génération, ça dépend aussi de votre entourage. Les stéréotypes qui sont présents sur les femmes dans le milieu professionnel, les femmes le portent, les hommes le portent aussi. C'est par exemple le fait que les femmes soient plus émotives que les hommes. Les femmes ont moins d'épaules, on réagit moins bien au stress, on se met à pleurer plus facilement. Ça se voit sur le Tumblr Metafac aussi. On a des posts d'enseignants qui disent « Moi, je n'ai plus quatre filles en groupe ensemble parce qu'à chaque fois qu'il y a un oral, il y en a une qui pleure. » C'est vraiment déstabilisant. Voilà. Donc ça existe tout à fait. Deuxième stéréotype, les femmes sont beaucoup plus portées sur la famille. Donc si une femme a des enfants, à la réunion qui se passe à 19h30, au lieu de penser à ce qu'on est en train de faire en réunion, elle va penser « Oh là là, est-ce que j'ai fait chauffer le four ? Est-ce qu'ils vont trouver ce qu'il faut dans le frigo ? Est-ce que mon gamin va bien dormir ?» Il y a même des pubs, hein, vous regardez les dernières campagnes pubs SFR pour la home box que vous pouvez diriger à l'extérieur. On voit une femme en réunion qui est en train de parler de quelque chose de très très sérieux, qui dit « Ah oui, dis donc, je pense à éteindre la télé de mon mari qui s'endort devant et à allumer la loupiote de mon gamin pour que lui dorme bien aussi. » Non, quand on est en réunion, en fait, on pense à ce qu'on est en train de faire. Troisième stéréotype, les femmes sont plus futiles. Elles ont des considérations qui sont, par exemple, les soldes, le maquillage, ce genre de choses. Et ça, vous en avez à la peine, des témoignages comme ça sur Paytafac. Des profs de maths qui disent « Les filles, on va vous convertir ça en pourcentage, hein, comme les soldes, hein, pour que vous compreniez mieux un petit peu le fonctionnement. » Ou « Les filles, je vais parler plus fort parce qu'avec le sèche-cheveux le matin, vous pouvez avoir l'oreille un petit peu bouchée. » Enfin, on en a aussi de toutes les couleurs. Et dernier exemple de stéréotype, les filles sont moins portées sur les sciences valorisées, c'est-à-dire, en tout cas dans notre pays, les sciences dites dures, donc les sciences plutôt la bio, plutôt la physique, ce genre de choses-là. Et pareil, on a des discours très récents, vous en trouvez plein sur Paytafac encore une fois, des discours très récents, par exemple le président d'Harvard en 2005, qui a, Dieu merci, été destitué de son poste depuis, Laurence Summer, il s'appelle, disait très clairement, si on a moins de filles dans les filières bio, maths, informatique, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas le cerveau construit pour ça. On est en 2005. C'est ce qu'on appelle, ce que Françoise Héritier appelait la valence différentielle des sexes, c'est-à-dire que selon la hiérarchie des sciences, les femmes se trouvent toujours en bas. Il y a certains pays comme la Finlande, par exemple, qui valorisent beaucoup plus les lettres, et bien là, on trouve moins de femmes dans les lettres qu'on en trouve dans les maths. Passons maintenant aux freins internes. Encore une fois, je vous parle de tendances. Il y a beaucoup de femmes ici qui ne vont pas se reconnaître dans les tendances que je vais donner et d'autres qui vont se reconnaître. On est vraiment là d'un point de vue sociologique et communicationnel.
Très rapidement, Marianne.
Très rapidement. On sait qu'il n'y a pas de différence cognitive entre les hommes et les femmes. Le fait que les femmes, par exemple, aient moins le sens de l'orientation, c'est tout simplement parce qu'il y a moins de papas qui prennent leurs filles sur les genoux pour leur faire faire un créneau quand elles sont petites. C'est uniquement du culturel. Ça n'a rien à voir avec la programmation de notre cerveau. Pourtant, les femmes intériorisent quand même certains stéréotypes. Elles savent qu'il y a certains milieux qui sont plus dangereux pour elles, dans lesquels elles seront moins acceptées. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Une fois que vous êtes en place dans votre milieu professionnel, vous allez vous poser en tant que femme tout un tas de questions qui sont complètement inutiles, c'est-à-dire comment je vais m'habiller ce matin, est-ce que cette jupe est trop courte, est-ce que je suis trop maquillée pour mon poste, est-ce qu'on va me prendre au sérieux. Pareil pour l'humour. On entend des blagues que les hommes peuvent dire, les femmes jamais, elles feraient de l'humour à caractère sexuel dans une réunion. Et puis enfin, je finirai là-dessus, les trois grands complexes sur lesquels je pourrais revenir, qui sont un peu tendanciels chez les femmes en termes de goût. Le premier, c'est le complexe de l'imposture. Si vous avez ce succès-là, c'est parce que c'était la bonne conjoncture, parce que vous avez travaillé avec la bonne personne, parce que le temps était là pour vous aider. En gros, c'est pas grâce à vous, c'est grâce à l'environnement. Deuxième complexe, le complexe de la chic fille consciencieuse. Mais bien sûr, je vais t'imprimer tes petites cartes avant qu'on aille en réunion, mais bien sûr, je vais aller faire le café pour tout le monde. On a été éduqués comme ça, pour être gentil, pour rendre service, et dans le boulot, c'est juste chronophage. Et enfin, troisième complexe, et pas des moindres, c'est le complexe du pouvoir. Tous les stéréotypes sur l'autorité, sur l'argent, sur l'ambition. Quand on dit « elle habite dans Longueuil », c'est rarement positif de dire ça. Et on voit du coup des campagnes qui apparaissent comme la campagne Ban Bossy, qui veut dire on ne dit pas Bossy pour une femme, on dit juste autoritaire, c'est-à-dire elle fait pas son t-shirt en fait, elle fait juste son métier. Voilà un petit peu les thématiques sur lesquelles je travaille. Merci Marianne.
Sur les stéréotypes, alors là nous sommes dans un cadre universitaire dont on aurait pourtant tendance à penser qu'on a quand même passé une étape, des paliers, visiblement on en est encore très loin. J'ai envie de revenir avec vous sur votre travail que vous exercez au planning familial. Donc, vous êtes animatrice de prévention auprès de groupes. Donc auprès de collégiens, de lycéens, et vous intervenez dans le cadre de l'éducation à la vie affective et sexuelle, et j'imagine que des stéréotypes que véhiculés par les collégiens ou les lycéens, peut-être plus les collégiens que les lycéens, je ne sais pas, vous nous le direz, vous devez en entendre une tripotée dans l'année scolaire, non ?
Oui, effectivement, on en entend beaucoup. On intervient sur le public jeune, on intervient de la maternelle au lycée, on intervient aussi auprès des étudiantes et des étudiants de l'Université d'Avignon. Sur les stéréotypes, on travaille beaucoup dessus, effectivement. Marianne, tu parlais des émotions, pour que les filles, soi-disant, pleurent plus, etc. Nous, quand on intervient en maternelle, justement, c'est pour parler des émotions avec les enfants, qu'on voit sur 15 séances à l'année. Ça va être une séance sur la tristesse, une séance sur la joie, des petits groupes de parole, etc. Et justement, on intervient dès qu'ils ont 4 ans. Et on a, pour vous donner un petit exemple, un petit imagier du genre. Ce sont des petits pandas. Donc il y a maman panda et papa panda. Mais ils sont exactement pareils tous les deux. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et ils sont en situation. Donc il y a un panda avec l'écharpe de président, par exemple. Il y a un panda qui fait la cuisine. Il y a un panda... Bref, pour demander aux enfants, à votre avis, est-ce que c'est une fille panda ou un garçon panda ? Vous imaginez, voilà ce qu'on entend, effectivement, c'est vraiment le panda qui fait la cuisine, c'est une fille panda, et le panda avec l'écharpe, le panda président, c'est forcément un garçon. Et il y a une petite fille la semaine dernière qui m'a dit, mais en fait, les filles panda, elles pourraient être présidentes, les filles tout court, elles pourraient être présidentes, mais c'est qu'on n'en voit jamais. Donc forcément, on n'a pas... c'est un petit garçon, c'est un garçon panda. Voilà. Sur les collégiens, collégiennes et les lycéens, lycéennes, là, on intervient vraiment sur la vie affective et sexuelle. Donc, on parle beaucoup, beaucoup d'égalité aussi. L'égalité, c'était quelque chose de complètement absent des textes qui encadrent justement l'éducation à la vie affective et sexuelle en France. On était sur une approche très biologique au début des années 80. Le corps, après il y a eu la contraception, l'IVG, les IST, et maintenant l'égalité fait partie des piliers vraiment de cette éducation, où on travaille avec eux sur les rapports filles-garçons, sur les relations à l'autre.
Depuis quand l'égalité fait partie vraiment des programmes du planning familial comme pilier?
Nous, vu qu'on est une association féministe, on a toujours eu cette vision de l'égalité. Après, sur les textes, ça fait que quelques années, c'est assez récent, que l'égalité a pris toute sa place dans les textes qui encadrent cette éducation. Sur les stéréotypes, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup au collège. ça se calme un peu au lycée, un peu. On entend à chaque fois la sexualité des garçons est valorisée, la sexualité des filles est jugée. Les filles font très attention à leur réputation, font très attention aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui se jouent sur la tenue aussi. Il ne faut pas avoir une jupe trop courte, ni trop longue, ni etc. Et les élèves sont baignés aussi baignent dans une société hypersexualisée avec la pornographie en fond. Et tous ces stéréotypes sexistes sont alimentés par justement la porno, les médias, la société en général, la télé-réalité qui fait beaucoup de mal, etc.
Et sur le porno, vous me disiez quand on a échangé pour préparer cette table ronde que aujourd'hui, étant donné que le porno est accessible via n'importe quel smartphone pour n'importe quel ado, ça avait vraiment changé. Du coup, le regard sur la sexualité, vous parliez d'hypersexualité, et j'imagine changer le regard aussi sur les rapports homme-femme quand on a quoi, 15 ans, 16 ans.
Alors, c'est le grand changement qu'on a constaté effectivement au planning depuis quelques années. C'est avec l'accès illimité et gratuit à la pornographie. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'une première image porno vue, choisie ou subie, c'est 9 ans.
C'est très tôt.
C'est tout petit. Ça n'a pas eu d'impact. L'âge du premier rapport est le même depuis des années et des années, c'est 17 ans. Donc c'est pas une sexualité qui est plus précoce. C'est juste que ça a modifié les rapports et la vision de la sexualité qu'ont les jeunes avant même de commencer la leur, où on repart dans de la domination masculine, où l'homme est actif, la femme passive, avec tout le culte en plus de la performance. Et en plus, du coup, les collégiens et collégiennes ont énormément de complexes par rapport à leur physique, et parce qu'ils pensent, enfin, ils imaginent une sexualité qui n'est pas du tout la réalité.
D'accord. Et vous voyez des comportements différents entre ce que peuvent voir les filles et ce que peuvent voir les garçons? Est-ce que au niveau des jeunes hommes collégiens, lycéens, on sent que eux se sentent également subissants en fait ce flot d'images? J'imagine que tous ne se disent pas qu'ils ont les mêmes super pouvoirs que ces hommes pénétrant 12 femmes en 10 minutes.
On est sur un rapport encore une fois très genré, c'est-à-dire que quand on intervient et qu'on a des groupes différenciés, enfin un groupe filles, un groupe garçons, pas ensemble, les garçons vont beaucoup parler de la pornographie, tous n'en regardent pas, hein, bien entendu, vont beaucoup parler de la pornographie et de la porno trash, on va dire ça comme ça, alors que dans le groupe de filles, on est plutôt sur... c'est difficile de parler du corps des filles parce que certaines filles sont très gênées au collège, hein, au lycée ça va mieux, sont très gênées de parler de ça parce que le corps c'est sale, une vulve c'est sale, les règles c'est sale, une fille est sale. Donc il y a d'un côté une méconnaissance, mais les garçons ont une totale méconnaissance de leur corps et du corps des filles aussi. Hein. Mais une totale méconnaissance et à la fois cette culture porno et hypersexualisée qui embrouille tout le monde.
Et pour finir votre intervention, Maud, vous et au niveau du planning et de votre propre intervention, comment vous essayez à votre échelle, à votre niveau, de travailler sur ces enjeux d'égalité et comment on s'adresse à ces jeunes hommes et jeunes femmes collégiens, lycéens sur ces questions-là justement?
C'est partir de leur propre vécu et de leur propre témoignage et de leur connaissance. En fait, ça fait du bien aussi de dire dans la classe oui, je suis victime de propos sexistes à longueur de temps dans le collège. Ça fait du bien à la personne qui le dit, puis ça fait pas de mal à ceux qui l'entendent aussi. Et puis, c'est leur permettre en fait de comprendre quelles sont les causes de ces inégalités, une fois qu'on les a constatées, ok, elles existent, comprendre quelles sont les causes de ces inégalités, Donc les stéréotypes dont tu parlais, Marianne, les assignations de genre, la société, l'histoire, l'écriture de l'histoire, la télé-réalité, les jeux vidéo, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est voilà, pareil. Et de réfléchir aux causes de ces inégalités, donc les discriminations, les violences, etc., pour ensuite essayer de trouver des solutions pour une société plus égalitaire. Parce qu'une fois qu'on a fait le constat, on essaie en tout cas de terminer aussi nos séances sur du positif et de réfléchir ensemble à « ok, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour changer ?» Et c'est aussi leur faire prendre conscience que le changement, ça sera eux, ça passera par eux. Et eux, la façon dont ils éduqueront leurs enfants et ainsi de suite.
Vous voulez ajouter quelque chose,
moi ? Non, ça
va. Merci beaucoup. J'ai bien envie de passer la parole maintenant à Catherine Blanc, voilà, qui récupère le micro, je vous remercie, enfin Cathy, qui est directrice de police municipale. Alors, quand on a échangé, tiens, je vais commencer comme ça votre intervention, quand on a échangé pour préparer cette table ronde, je crois qu'on a échangé par mail tout d'abord, et dans votre mail, il y avait écrit « directeur de la police municipale ». Et quand on s'est eu au téléphone, je dis « tiens, pourquoi il y a écrit « directeur » et pas « directrice » ? Et on a commencé à échanger là-dessus, et on pourrait peut-être tout ensemble recommencer à échanger aussi sur le fait de choisir directeur plutôt que directrice, parce que ça conduit du coup à une conversation passionnante. Je laisse la parole, Catherine.
Bonjour à toutes et à tous.
Oui, effectivement, lorsque nous avons échangé, Sophie m'a interrogé sur directeur, et je lui ai expliqué qu'en fait ce qui me gêne dans directeur et directrice, c'est qu'il y a un genre. Parce que j'ai coutume de dire qu'en fait, les policiers que je manage ou moi-même, ce sont des policiers qui ne sont ni des policiers ni des policières, mais qui sont là des policiers. Je dirais, il me faudrait trouver un mot qui soit neutre. Pour l'instant, je ne l'ai pas créé et personne ne l'a inventé. Donc c'est pour ça, et c'était peut-être l'image que je m'en faisais moi du mot directrice que je trouvais très très réducteur. Parce que effectivement, je suis dans un métier qui est très genré. Et où on a coutume de me rappeler. Oui, malheureusement. Donc Mathilde disait que, on va dire, les femmes sont entrées vraiment dans l'activité professionnelle rémunérée, salariée après la guerre. En police, les premières femmes gardiennes de la paix sont rentrées en 1979, ce qui n'est quand même pas si vieux. Et pour ma part, je suis rentrée en 1985 en police nationale. Alors, on allait toutes à Paris. Donc, en province, dirons-nous, nous ne voyions pas de femmes en uniforme. On voyait des femmes en uniforme à Paris, qu'on mettait que dans des endroits particuliers, c'est-à-dire le jour ça allait, mais la nuit on les mettait surtout pas à des endroits où il y avait de l'intervention. Elles étaient bonnes pour garder des ambassades et pour les interventions. Elles étaient fragiles, sans doute, donc comme elles étaient fragiles, on ne les autorisait pas à faire de la nuit. J'ai découvert à l'école de police nationale à l'époque les propos sexistes et machistes que je n'avais jamais entendu, avec les femmes n'ont rien à faire dans la police. Alors je répondais, c'est un fait, je suis d'accord avec vous, elles n'ont rien à faire dans la police, mais maintenant on est là et vous allez faire avec, parce qu'on n'a pas d'autre solution puisque nous sommes là. Et je reconnais que ça n'a pas été simple, parce que nous avions, alors j'ai des propos, nous en avons parlé avec Anne-Sophie, un peu difficile, mais nous avions les formateurs, mes propos sont sexistes fortement là. Nous avions des formateurs qui voyaient arriver de la chair fraîche à l'époque, excusez-moi l'expression, tous les 8 mois. Donc maintenant c'est tous les 12 mois, mais tous les 8 mois on leur apportait quelques jeunes femmes prêtes à consommer devant nous, admiratives de l'autorité. Et si ça se passait maintenant, je pense qu'on se retrouverait dans des plaintes pour harcèlement. Mais à l'époque, on ne savait pas. Donc quand il y en a un qui essayait, ben, on le repoussait du mieux qu'on pouvait. C'est jamais aller plus loin. Quelquefois, on s'est retrouvé dans des situations difficiles, mais on ne savait pas. Je pense que c'était notre ignorance de l'époque. Lorsque je suis arrivée à Paris, il y en avait déjà beaucoup. Donc, hormis le fait que nous ne pouvions pas choisir notre affectation, je n'ai pas senti sur la voie publique trop de difficultés liées au fait que je sois une femme qui porte un uniforme. J'ai, pour des raisons personnelles, on parlait d'enfants, on parlait du temps que prend de faire un enfant, de commencer à l'élever. et je suis rentrée donc dans une commune en police municipale. C'est pour ça que maintenant je suis en police municipale, suite à une réussite à un concours, où, comme je l'ai expliqué à Anne-Sophie, lorsque j'ai passé le concours, j'ai fini major de ce concours, mais le responsable de la police municipale de l'époque ne voulait pas de femme. Donc il s'est vraiment opposé au fait qu'il y ait une femme, en disant « moi, je refuse qu'il y ait une femme ». Quelquefois, il y a des gens qui croisent nos chemins. Au jury, il y avait un avocat du barreau de Carpentras qui avait fait passer le droit public, qui a dit « c'est très simple, si vous ne preniez pas les deux premiers candidats, une femme et un homme, qui ont réussi, qui sont les deux premiers, je vous attaquerai au tribunal administratif. Je pense que si cet homme n'avait pas été là, je n'aurais jamais pu rentrer en police municipale. » Donc, voilà, il faut qu'il y ait des gens qui nous défendent. Et là, ça a été... Anne-Sophie a été surprise de mon propos. Le plus difficile a été de travailler avec mes collègues masculins, puisque sur l'effectif qui était de 17 personnes à l'époque, un seul a accepté de travailler avec moi. Les autres, d'abord, pour une partie, avaient eu un veto de leur épouse. Je t'interdis de travailler avec une femme, surtout la nuit. Et les autres l'ont dit textuellement, lorsque je suis avec une femme la nuit, ce n'est pas pour travailler. Donc ça ne nous laisse pas un grand choix. Ça a été une époque difficile. Des gens qui, sur la voie publique, mais je pense qu'à Avignon, les premières femmes policières municipales ont vécu la même chose que moi. Des gens qui vous tournent autour, des messieurs, qui constatent que vous portez une arme et qui vous disent « mais vous en donnez une arme ?» Ma réponse a été « oui, monsieur, en plus, ils m'ont même pas expliqué comment ça fonctionne. » Je ne peux pas dire mieux. Donc, c'est vrai que ça a été difficile. Ça a été un long chemin. J'ai vu, alors je vais faire, nous en avons parlé un petit peu de politique politicienne sans parti politique particulier. Je me suis retrouvée avec un changement de municipalité, avec un poste à responsabilité, j'étais chef d'équipe à l'époque, et avec un élu délégué à la sécurité qui avait une haute idée de la femme, surtout couchée, ou sous le bureau, je répète, hein, c'est du politiquement incorrect. Quand Marianne parlait de paye ta fac, ça a quand même beaucoup de, on va dire, ça a de l'écho dans mon cerveau. Et je me suis retrouvée avec un fonctionnaire de police qui était sous ma responsabilité, qui était violent avec son épouse. Et la dame nous a appelés au secours, donc c'était quelqu'un qui était apparemment, je l'ai su après, connu pour ça. J'ai traité l'intervention comme je devais le faire, comme j'aurais fait. Et lorsque je suis rentrée rendre compte au poste de police municipale, j'ai des lieux à la sécurité qui m'a dit « on aurait dû régler ça en famille ». Alors je l'ai regardée avec des yeux ébahis en lui expliquant que ce n'était pas possible, que j'étais agent de police judiciaire adjointe, que je devais rendre compte de tous les tribaux délits de ma connaissance, que c'était un délit, et que même si c'était un de mes collègues de travail, il y avait des choses qui ne s'acceptaient pas. Et sa deuxième question, il m'a demandé si j'étais sûre qu'elle avait mal. Et là, je suis obligée de l'avouer, puisque je l'ai dit à Anne-Sophie, la case rouge est passée en fixe, et j'ai été odieuse avec lui, et j'ai dit, il faut que je m'en aille, je ne pourrais pas accepter ça, je ne pourrais pas le vivre. Et je pense qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que tous ces propos sexistes, il y a des gens qui font tout pour que nous avancions dans la société, et par bonheur pour nous, et c'est ce qu'on disait, ce que disait Mathilde, nous évoluons et nous continuerons à évoluer, parce qu'on a plus que nos grands-mères, et nos petites filles auront plus que nous. Mais c'est un combat de tous les instants, de tous les jours, et c'est vrai qu'il y a vraiment des gens qui font tout pour freiner, pour des raisons qui nous échappent. Dans tous mes entretiens de recrutement, puisque j'ai changé de commune ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que ça faisait d'être une femme dans la police. Actuellement, quand je fais passer des entretiens de recrutement, il y a des membres du jury qui posent ce genre de questions et à qui je suis obligée d'expliquer que c'est interdit, qu'on n'a pas le droit de poser ce genre de questions. Que oui, on en est encore là, je veux dire, et on est en 2018. Ce sont des choses difficiles. Il y a aussi des femmes qui, j'oserais le dire, ne luttent pas dans le même sens que nous, pour des raisons qui m'échappent, que je ne connais pas et qui sans doute leur appartiennent. Après, il y a des questions comme, voilà, les policiers, vous les voyez tous les jours, ils portent des, alors suivant l'arme, ça va être des chemises bleu glacier pour la police nationale, du bleu clair pour les gendarmes, du bleu marine pour les policiers municipaux. Et les responsables de service peuvent, à leur choix, porter du blanc. La première fois que j'ai porté du blanc, parce que je porte plus souvent du bleu marine, il y a une jeune femme de la mairie qui me dit « Tu portes du blanc parce que t'es une fille ?» Je l'ai regardée, je dis « s'il y avait une couleur pour les filles, je pense qu'ils auraient choisi rose. Mais blanc, non, c'est pas possible. Donc, il y a encore des stéréotypes qui sont très marqués. Mathilde parlait de portes qui étaient construites à nouveau. J'avais une directrice générale des services qui, elle, parlait plutôt de plafond de verre. Et c'est exactement ça. On essaye d'avancer, mais au-dessus de nous, il y a toujours quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et souvent, entre nous, puisque quand j'ai été recrutée dans la commune où je suis actuellement, où effectivement, j'ai appris juste avant de rentrer que je serais la seule femme, depuis j'en ai recruté, on se rappelle très souvent qu'il ne faut pas qu'on oublie que nous ne sommes que des femmes. J'espère qu'un jour, j'aurais pu le dire. Je le souhaite vraiment. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup.